puis nos musiciens Marie-Pierre et Olivier, sans lesquels ce culte ne pourra pas avoir lieu. Donc, merci à eux pour ce service précieux. Et sans plus tarder, je vous laisse la parole, plutôt la note, pour nous introduire musicalement dans le culte. Merci. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu qui nous rassemble et de Jésus-Christ qui nous aime et nous conduit. Amen. Je vous invite à partir en voyage. Tout d'abord, loin, 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 dans les temps bibliques du temps de Moïse. Moïse, comme vous le savez, ce grand guide du peuple d'Israël de l'esclavage, mais avant cela, avant de devenir ce grand guide, eh bien, il a fait une rencontre, une découverte qui a changé radicalement sa vie. C'est la rencontre autour du buisson ardent. Il est arrivé dans le désert en conduisant le troupeau de son beau-père. Il pénètre au plus profond d'un désert jusqu'à la montagne de Dieu, l'Horeb. Il ne savait pas à l'époque que c'était la montagne de Dieu. Un buisson attire son regard. Il est en feu. Pour s'en approcher, Moïse dit: dois se déchausser. Ôte tes sandales, car tu es sur une terre sainte. Il ne peut entendre la voix de Dieu que les bien nus, pieds nus, en signe d'humilité. Cette petite excursion sur la montagne de Dieu pour vous dire que ce n'est pas la géographie qui fait la sainteté d'un lieu, mais c'est bien la parole de Dieu qui se fait entendre. Et puisque nous aussi ce matin, nous sommes ici pour ouvrir ensemble les Écritures, eh bien nous sommes sur une terre sainte. Nous devons nous ôter, nous aussi, du moins symboliquement, ôter nos sandales. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous voulons être devant toi en toute humilité, les pieds nus, les mains ouvertes. Aide-nous à prendre conscience que tu es au milieu de nous. Toi qui as parlé dans un simple buisson, tu nous appelles au-delà de nos épines. Tu nous rejoins au cœur de notre vie, au creux de nos soucis. Ce matin, que parle ta parole? Qu'elle nous guide sans nous embrigader. Qu'elle nous éclaire sans nous consumer. Qu'elle nous réchauffe sans nous brûler. Amen. Et ensemble, nous voulons tourner nos yeux vers ce Seigneur qui nous parle en chantant au premier chant, le numéro 1207, il va s'afficher aussi sur l'écran, les trois strophes, tournez les yeux vers le Seigneur, 1207, mais les paroles vont s'afficher sur l'écran. Je vous invite à la prière qui sera introduite par un verset biblique, par un verset de sagesse plutôt. Bon. On demandait à un ancien comment prier. Il a répondu : il n'est pas besoin de multiplier les belles paroles, il n'y a qu'à entendre les mains et dire : Seigneur, comme tu veux. Comme tu sais, aie pitié. Et si un combat survient, Seigneur, au secours. Je vous invite à la prière. Qui sommes-nous, Seigneur, pour évaluer ce qui est bon pour nous? Trop souvent, nos désirs ne nous élèvent pas. Nos demandes ne nous édifient pas. Alors nous voulons ce matin ouvrir les mains pour nous abandonner à ta miséricorde et dire avec l'ancien, comme tu veux, comme tu sais, aie pitié. Aie pitié de tout ce qui en nous n'est pas le fruit de notre conversion. Aie pitié de tout ce qui en nous n'est pas suscité par l'amour. Aie pitié de tout ce qui en nous n'est pas transfiguré par la grâce. Seigneur, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite dans nos mains. Que ta volonté soit faite par nos pieds. Que ta volonté soit faite dans notre cœur. Que ta volonté soit faite par nos paroles. Pour que ta volonté se fasse en nous et par nous, nous tendons les mains, nous ouvrons nos cœurs, nous offrons nos pensées, nous accueillons ta parole. Amen. Chantons donc Jésus-Christ. Se dit rachamim. Il est dérivé d'un mot qui désigne la matrice, rechem. La miséricorde est comme une nouvelle naissance, un recommencement, une résurrection. Pour nous retentit la grande nouvelle de l'Évangile. Aujourd'hui, Dieu fait miséricorde. Sa bonté n'est pas épuisée, sa bienveillance est notre assurance. La grâce et l'amour de Dieu sont pour nous comme une nouvelle naissance qui nous donne de renaître à la foi, qui inspire nos pensées, nos paroles et nos pas. Amen. Levons-nous pour chanter notre reconnaissance. Confesser notre foi. Cette confession est formulée à la première personne, si bien que chacun de nous peut s'y associer personnellement. Je crois en Jésus de Nazareth, le nourrisson né dans une étable d'un couple d'étrangers poussé sur les routes de l'exil pour obéir aux ordres d'un empereur. Je crois en Jésus de Nazareth, l'homme fatigué qui s'est assis au bord d'un puits et qui a osé parler à une femme étrangère et lui a permis de découvrir qui elle était, elle qu'on appelait la femme aussi Marie. Je crois en Jésus de Nazareth, le Juif qui croyait que son message était réservé aux enfants d'Israël, mais qui a élargi son regard lorsqu'une femme cananéenne s'est humiliée à l'image des petits chiens. Je crois en Jésus de Nazareth, cet homme qui accepte qu'une femme lui lave les pieds de ses larmes, les essuie de ses cheveux et répande sur eux un parfum précieux. Je crois en Jésus de Nazareth, le prisonnier victime d'un procès inique, cet homme de souffrance, abandonné, humilié, flagellé, crucifié, suivi par quelques femmes jusqu'à la croix, mais qui trouve encore la force de pardonner à ses bourreaux. Je crois en Jésus de Nazareth, qui n'est pas au tombeau lorsque les femmes veulent l'embaumer, mais qui partage la route des pèlerins découragés et qui se révèle dans le pain rompu et partagé. Je crois en Jésus de Nazareth. Je crois qu'il est le Christ, le Dieu, le Père. Je crois que par son Esprit, il est parmi et avec nous tous les jours. Amen. Et pour prolonger cette confession, nous chantons au numéro 47-21, quatre strophes, « J'ai besoin de ta confiance ». Merci Seigneur pour cette offrande que tu nous permets de faire. Accepte-la comme un signe de notre engagement à tout service. Amen. Prolongeons notre prière en chantant au numéro 47, 22. Je remets tout entre tes mains. Les quatre strophes de ce cantique numéro 47, 22. Deux textes que nous avons ce matin. Mais avant de lire ces deux textes bibliques, je vous invite à la prière. Seigneur, ouvre mon esprit à l'intelligence de ta parole et que mon cœur demeure venant tandis que tu me parles comme la pluie féconde la terre et fais germer la semence que ta parole, Seigneur, accomplisse au cœur de ma vie sa mission, ta volonté. Qu'elle féconde ma vie et lui permette de porter des fruits. Oui, que ta parole soit la vérité de mon existence et la lampe de mes pas. Amen. En ce temps de carême, nous cheminons toujours avec l'évangile de Marc, avec Jésus dans l'évangile de Marc. Et il se trouve que c'est aussi la lecture proposée dans le calendrier des lectures bibliques pour ce dimanche. Première lecture donc dans l'évangile de Marc au chapitre 9, les 10 premiers versets. Et il, c'est Jésus qui parle, leur disait. En vérité, je vous le déclare, parmi ceux qui sont ici, certains ne mourront pas avant de voir le règne de Dieu venu avec puissance. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmène seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux Et ses vêtements, tadars, éblouissants, si blancs qu'aucun foulon sur terre ne saurait blanchir ainsi. Élie leur apparut, puis Moïse, ils s'entretenaient avec Jésus. Intervenant, Pierre dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait que dire, car ils étaient saisis de crainte. Une nuée vint les recouvrir et il eut une voix venant de la nuée, « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. » Aussitôt, regardant autour d'eux, ils ne virent personne d'autre que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, il leur recommanda de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme ressuscite d'entre les morts. Ils observèrent cet ordre tout en se demandant entre eux ce qu'ils entendaient par « ressuscité ». D'entre les morts. Voilà donc ces 10 versets au début du chapitre 9 de Marc. Et puis, deuxième lecture également recommandée pour aujourd'hui, qui se trouve à la fin du 8e chapitre de la lettre de l'épître de Paul aux Romains.
Qui nous séparera de l'amour de Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive, selon qu'il est écrit. À cause de toi, nous sommes mis à mort tout le long du jour. Nous avons été considérés comme des bêtes de boucherie. Mais en tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'assurance. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les autorités, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les forces des hauteurs, ni celles des profondeurs, ni aucune autre création, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur.
Genre de poète êtes-vous? Amoureux de la nature, comme dans ce poème de Victor Hugo, intitulé « Au champ », je me penche attendri sur les bois et les eaux, rêveur, grand-père, aussi les fleurs et les oiseaux, de la pitié sacrée et profonde des choses. J'empêche les enfants de maltraiter les roses.
Si, ne ferait point la plante et l'animal, riez sans faire peur, jouez sans faire mal.
Jeanne et Georges font pure prunelle éblouie, rayant au milieu des fleurs épanouies. Gère sans le troubler dans tout ce paradis. Je les entends chanter, je songe et je me dis qu'ils sont inattentifs dans leur charmant tapage au bruit sombre que font en se tournant les pages. du mystérieux livre où le sort est écrit et qui sont loin du prêtre et près de Jésus-Christ. Ou bien amoureux tout court, comme dans ce poème de Guéret Beauchemin, poète québécois. À celle que j'aime, dans ta mémoire immortelle, comme dans le reposoir d'une divine chapelle, pour celui qui t'est fidèle, garde l'amour et l'espoir. Garde l'amour qui m'enivre, l'amour qui nous fait rêver. Garde l'espoir qui fait vivre. Garde la foi qui délivre, la foi qui nous doit sauver. L'espoir, c'est de la lumière, l'amour, c'est une liqueur, et la foi, c'est la prière. Mets ces trésors, ma très chère, au plus profond de ton cœur. J'aurais pu en trouver d'autres, vous aussi, plein d'autres, je ne sais pas quels sont vos poètes préférés. Ces poètes qui sont si doués pour nous faire rêver d'un autre monde, de nous révéler une autre réalité que celle matérielle et contraignante qui souvent nous enferme dans nos pesanteurs et nos fatalismes. En particulier en ce temps de crise sanitaire qui dure et dont nous avons du mal à entrevoir une sortie. Les poètes, les musiciens aussi et les artistes, ils ont la capacité de mettre des mots sur des images, des sensations, des couleurs. Ils savent peindre les sentiments avec des phrases et des notes et des couleurs. Notre texte, notre récit de prédication aujourd'hui, justement, nous invite à une rêverie, à une promenade imaginaire et poétique. Pierre, Jean et Jacques, qu'ont-ils vu ce fameux jour dans la montagne? Pour les Monavis, ils n'ont pas dû voir grand-chose, malgré la belle description, pour la simple et bonne raison qu'ils dormaient. Et s'ils n'ont rien dit après cette petite escapade, c'est qu'ils ont dû supposer que le soleil avait tapé sacrement fort sur leur tête. La preuve, Pierre dit n'importe quoi. Dressons trois tentes. Mais où il va les prendre, les trois tentes? Je ne vois pas de magasin Décathlon dans le coin. Et tous les trois commencent à ce moment-là à avoir peur. Au moment que quand la nuit arrive, alors que justement, ils auraient dû avoir peur avant le temps qu'ils voyaient la gloire et ensuite être soulagés de voir la nuée, signe par excellence dans la Bible que Dieu protège les humains de sa présence. Pierre, Jacques et Jean n'ont pas vu grand-chose, mais ils ont vécu quelque chose de grand, de fort, qui cherche à se dire dans des mots ordinaires. Alors que veut dire au juste ce récit, ce texte de la transfiguration? À l'instar des autres récits où joue le surnaturel, les éléments étranges doivent agir sur nous, lecteurs, comme un avertisseur. Attention, si l'évangéliste Marc et avec lui Matthieu et Luc ont pris la peine de raconter soigneusement ce curieux événement, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup à y comprendre. Ces récits fantastiques sont le signe d'une réalité augmentée au-delà de la vérité historique relativement inintéressante ou en tout cas trop banale pour nous parler des choses fondamentales de la vie. Ici, le cœur de la vie et de la foi est en jeu. Oui, les questions de vie et de mort, de passé et de futur, de promesses et d'anticipation. Je voudrais relever d'abord autour du texte dans le mouvement de l'évangile de Marc comment des petits signaux se déclenchent au fil des versets précédents. Jésus, après avoir nourri 5000 hommes, sans compter femmes et enfants, se demande ce qu'on dit de lui. Les disciples lui servent les rumeurs qui courent à son sujet dans la population, Jean, Élie ou un ancien prophète. Mais vous, dit Jésus, qu'en pensez-vous? Et là, surprise, quand Pierre fournit la bonne réponse, tu es le Christ de Dieu, Jésus les rabroue assez durement, non seulement Pierre, mais aussi les autres. Retire-toi derrière moi, Satan, car tes vues ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Il les fait taire en annonçant sa crucifixion prochaine, sa souffrance et sa mort. Pour les disciples, la tension est à son comble. Qui est donc leur maître? La question se pose constamment. Jésus manifeste une autorité, un pouvoir sur le mal, une puissance à nul autre pareille. Mais que signifient ces consignes de silence? Il annonce les souffrances et de la mort que nous avons entendues. Les disciples n'y comprennent plus rien. Quand tout est sombre, quand l'avenir paraît tellement incertain, quand rien n'est compréhensible, alors la halte de la prière s'impose pour déposer tous les fardeaux, cesser l'agitation inefficace et accueillir une parole qui vient d'un autre que de nous-mêmes. Jésus sent-il cette pression de ses amis? En met-il ses plus proches volontairement sur la montagne afin qu'ils soient réconfortés? Marc, Matthieu et Luc le racontent ainsi. Au tournant de leur récit d'évangile, à cet instant où Jésus vient d'annoncer pour la première fois sa passion, c'est-à-dire sa mort, sa crucifixion. C'est là qu'il situe ce moment extraordinaire d'apparition d'Élie, de Moïse et de la confirmation qu'il est bien lui le Fils de Dieu, lui qui va marcher vers la mort en connaissance de cause. Tous les ingrédients nécessaires à cette véritable théophanie, c'est-à-dire cette révélation de Dieu, sont présents. La montagne, le lieu habituel de la rencontre avec Dieu depuis Moïse, les vêtements d'une blancheur éblouissante, et la présence justement de Moïse et d'Élie, le dernier des prophètes qui doit venir avant la venue du Messie. Ainsi, la loi et les prophètes sont convoqués, réunis autour et auprès de Jésus. Pour Jésus qui, depuis le début de son ministère public, ne cesse de fracasser la loi, c'est bien le comble. Moïse et Élie ont tous deux également rencontré Dieu sur la montagne. Moïse sur le mont du Sinaï, où il a reçu de la part de Dieu aussi, à travers une nuée, les 10 paroles, la volonté même de Dieu qui s'y exprime. Puis Élie, peut-être que vous vous en souvenez de lui lorsqu'il a été amené à s'enfuir et qu'il se trouvait aussi dans une montagne et dans une grotte où il a dû passer. Il était épuisé d'abord et il s'était couché. Et puis une parole s'est adressée à lui, la présence de Dieu qui est passée dans un souffle tenu. Beau texte où Dieu passe devant cette grotte dans un souffle tenu. Qui rencontre Jésus sur la montagne signifie que Dieu poursuit l'histoire avec les humains dans une parfaite continuité depuis Moïse. Dieu est fidèle. Voilà ce que veut dire cette rencontre au sommet. Dieu est fidèle. Il a parlé depuis les temps anciens par la bouche des prophètes. Il s'est choisi le porte-parole, homme imparfait et bégayant comme Moïse, pour dire au monde son affection, mais devant la surdité du monde, il a désigné son Fils bien-aimé pour révéler son amour. Jésus sur la montagne n'est pas illuminé par la gloire de Dieu comme Moïse au Sinaï. C'est sa propre gloire qui est révélée aux disciples. La lumière est la marque de son identité profonde. L'éclat céleste n'est pas seulement le reflet de la gloire de Dieu, mais le resplendissement de ce qu'il est lui-même dans son être profond, son être intime. Et c'est bien difficile à expliquer. Mais il est ainsi des instants précieux, rares, des rencontres où tout à coup Dieu est présent sans que l'on comprenne pourquoi et comment. C'est bien difficile à expliquer. Parfois, il n'y a pas de blancheur éblouissante ni même Élie et Moïse, mais on sait que Dieu était là. Dans cette rencontre, et qu'il a même murmuré à nos cœurs réconfort et consolation. Même si elle me fait toujours rire, la réaction de Pierre est compréhensible. Maître, il est bon que nous soyons ici, tressons, trois tendus, une pour toi, une mouille pour Moïse et une pour Élie. C'est vrai, il est bon que les disciples soient présents. Toutefois, ces expériences très intenses ne sont pas faites, hélas, pour durer. Rien ne peut fixer ces instants. Et si un photographe avait été présent, ou quelqu'un qui filme, capter, garder les images, la rencontre avec Dieu, ça n'aurait pas donné grand-chose. C'est un leurre de croire que l'image puisse garder, capter, figer la rencontre avec Dieu. La mission ne suffit pas d'ailleurs à Pierre pour comprendre qui est Jésus. Il faut encore la muette divine et la voix répétant pour la deuxième fois dans l'Évangile « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui a été choisi, écoutez-le. » Seule la voix, la parole donne le sens de l'expérience. Le Christ n'est pas venu révéler au monde sa gloire, il ne se contemple pas dans une vision, non, il se découvre en se mettant à l'écoute d'une parole qui le qualifie de Fils bien-aimé et qui passe par la croix. Rien ne peut être compris indépendamment de cette croix de Golgotha. Mais sans la gloire, sans la résurrection, la croix ne serait qu'une triste erreur judiciaire, une absurdité. Alors, il faut redescendre de la montagne, toujours à nouveau. Nos vies ont incroyablement besoin de ces pauses où Dieu nous parle cœur à cœur. Pause de la prière, pause de la lecture biblique, pause du culte ou pause artistique. La poésie peut nous introduire dans cette dimension, la musique peut nous conduire sur la montagne sans pour autant rien maîtriser. Mais ces pauses nous permettent simplement de repartir vaillamment à nos activités, à nos engagements, à nos responsabilités, assurés de la présence de Dieu à nos côtés, où que nous soyons. Où que nous allions. Difficultés, douleurs, souffrances, mort, trahison. Nous savons que le mal est à l'œuvre et que nous sommes pris dans cette lutte. Mais sur la montagne, avec Pierre, Jacques et Jean, nous avons reçu la conviction que le mal est déjà vaincu. Ainsi se réalise effectivement la promesse du Christ qui précède la manifestation de son règne sur la montagne. En vérité, je vous le déclare, parmi ceux qui sont ici, certains ne mourront pas avant de voir le règne de Dieu venu avec puissance. Amen. Je vous invite à chanter au cantique numéro 4707. Les quatre premières strophes, 4707, si Dieu pour nous s'engage, les paroles vont bien sûr s'afficher. Et nous pourrons nous lever pour chanter. Avec nous, bien sûr, aussi. Que demain, lundi 1er mars, Marie-Pierre nous invite à la méditation chrétienne, à l'heure habituelle, à 20h30. Marie 2 mars, 13h30, à l'heure habituelle également, le café accueil encore par Zoom. Puis, à 20h30 le soir, à la réunion du conseil hospitalier, également par Zoom. Puis, alors, mercredi, comme tous les mercredis, jusqu'au, enfin, de ce temps du carême, donc voilà, c'est l'occasion pour vous, pour moi, de vous parler justement de ce temps de carême aussi, de ce que nous, comment nous pouvons le vivre. Donc, en voilà, en étant, en suivant aussi ces soirées, les 6 soirées méditatives de la Semaine Sainte. Après, voilà, ça a commencé le mercredi 17 février. Le mercredi dernier, c'était autour de la Passion de Saint-Jean de Jean-Sébastien Bach. Et puis, ce mercredi prochain, 3 mars, c'est Pierre Adrien, notre stagiaire de philanthéologie, qui nous invite à une visite virtuelle du Musée du Désert, qu'il connaît très bien. Voilà. C'est toujours aux mêmes horaires, 20h30, 21h30, et ça se passe également sur Zoom. vous avez dû recevoir. Si ce n'est pas le cas, je peux vous le renvoyer aussi. La feuille complète de ces soirées éducatives avec le lien Zoom pour vous connecter également. Et puis, puisque nous parlons aussi, si je ne peux pas noter là, du temps de carême, au niveau... ces soirées se font aussi ensemble avec la paroisse de Courbevoie, donc c'est toujours aussi l'occasion de faire des choses ensemble aussi avec nos amis paroissiens de Courbevoie, de l'église luthérienne, qui viennent aussi au culte des fois chez nous. C'est cette semaine, ces 6 soirées éducatives sont ensemble avec les paroissiens de Courbevoie. Et pendant ce temps de carême, au-delà de nos paroisses, vous avez, comme toujours dans le temps de carême, le carême protestant, chaque année, avec un autre intervenant, un autre thème. Et cette année, c'est le pasteur Samuel Lamédron, qui vient d'être élu il n'y a pas longtemps, au conseil régional et à la présidence du conseil régional de notre église en région parisienne. Donc, il est le nouveau président du conseil régional et il nous invite à ses conférences où le thème général est « Les chrétiens pourraient changer le monde ». Voilà, une promesse donnée. Ça se passe tous les dimanches après-midi de 16h à 16h30 sur France Culture. Donc, il faut juste brancher votre poste de radio. Et à 16h, vous aurez donc une de ces conférences. Il me reste des clients qui vous donnent le programme complet. Vous pouvez également commander les conférences au complet ou en brochure, en rédiffusion aussi, en tout cas, tout ce qu'on peut faire aujourd'hui aussi pour que, voilà, si vous n'êtes pas disponible dimanche après-midi, vous pouvez, si cela vous intéresse, le suivre quand même. Voilà, donc je vous tiens à votre disposition, c'est des clients. Et puis, alors ça, c'est pas spécifiquement le temps de carême, c'est toute l'année, un calendrier des lectures bibliques. Voilà, que vous avez des propositions de lectures bibliques pour tous les jours. Dimanche inclus, voilà, si ça vous dit. Donc, il me reste des brochures aussi pour ça. Je continue avec les annonces de notre paroisse. Donc, après le matin du 3 mars, samedi 6 mars, à 10h, l'Assemblée du Consistoire. À 10h30, de 10h30 à midi et 30, et peut-être, Rouve, peux-tu préciser peut-être des choses, c'est le début d'un nouveau parcours Alpha qui est nouveauté, cette fois par Zoom.
Juste petite précision, théoriquement c'est 10h30 midi. On va essayer de se tenir à midi pour que ça ne prenne pas trop de temps et qu'après chacun puisse vaquer à ses activités. Donc on commence ce samedi prochain, donc 6 mars, c'est des rencontres du partage, un partage entre bienveillant entre plusieurs personnes sur les questions, sur la vie, sur Dieu, sur la foi, que croire, et puis des éclairages sur la foi chrétienne. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, il y a un petit exposé qui est en fait un témoignage, plus un témoignage, et ensuite on a un petit groupe et on discute de choses. Et d'autres de manière bienveillante et ouverte. Donc voilà, chacun peut s'exprimer librement ou ne pas s'exprimer. Et donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire. Il y a des déclinants derrière, à l'accueil, enfin, derrière. L'adresse est parcoursalphabc@gmail.com. Et surtout, peut-être que vous vous dites que peut-être que vous l'avez déjà fait ou que vous n'avez pas le temps ou ça, voilà, ça ne vous intéresse pas. Mais pensez à des gens autour de vous surtout que ça pourrait intéresser. Il ne faut pas, il n'y a pas à se déplacer. C'est par Zoom, donc c'est l'occasion pendant 1h30 le samedi pour ces gens qui pourraient se rapprocher de la foi. Ou voilà, ou discuter, qui se pose des questions, de découvrir, c'est vraiment l'occasion. Merci.
Merci beaucoup, Rouve. Donc, moi aussi, je vous recommande très vivement ce parcours. Et Rouve et toute une équipe autour ont beaucoup œuvré pour le préparer. Et bien sûr, c'est auprès d'elle que vous pouvez avoir plus d'informations aussi, si vous voulez, voilà, éventuellement avoir des renseignements un peu plus personnels, elle est disponible aussi pour ça. Toujours samedi 6 mars dans l'après-midi, entre 15h et 17h, c'est le KT à la Maison des Jeunes, dernière KT là, de préparation du culte du lendemain. C'est donc animé par, en partie par les catéchumènes et l'équipe. Et c'est aussi le dimanche, traditionnel dans notre paroisse, de remise de Bible pour ceux,
les jeunes, qui sont tout juste entrés cette année en année de KT. Et puis, alors, projection déjà dans les cultes à venir, dans les dimanches à venir, dans ce mois de mars assez rempli, voilà, avec des moments particuliers, des rencontres. Tout d'abord, dimanche 14 mars, dans deux semaines, un culte artistique. Alors, c'est une nouveauté, on ne connaissait pas non plus trop. J'ai marqué avec Crescendo, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un groupe, une association qui existe sur le plan national et même international, avec lequel notre église, sur le plan national, est entrée en partenariat pour justement préparer un culte un peu autrement, autour d'une œuvre d'art. Voilà, nous sommes en train de le préparer, avec toute une équipe, et on ne sait pas encore trop ce que ça va donner, mais ce qui est certain, ça va être un moment particulier de rencontre, et je pense que si vous y êtes, vous ne pouvez pas le regretter. C'est un moment de culte particulier, qui durera peut-être un tout peu longtemps, mais un peu comme avant, quand on avait la Sainte-Seine aussi. Mais voilà, donc c'est vraiment un moment particulier, donc on attend avec impatience l'arrivée. Et puis les deux dimanches suivants du mois de mars sont respectivement le 21 mars, l'AG, donc l'Assemblée Générale de la paroisse, donc c'est un moment important de la vie de notre église de notre paroisse, et le dimanche d'après, l'AG de l'entraide. Voilà, comme ça vous avez le programme complet des dimanches à venir en ce mois de mars. On poursuit avec des annonces. S'il y en a, je ne sais pas, au niveau du 172, je crois que c'est un temps de repos actuellement aussi, peut-être. À moins que, je ne sais pas, s'il y a des annonces à faire, je vois. Personne. Si peut-être. Avec Christine, c'est ça. Tu peux venir ici au micro, ça sera mieux. Oui, c'est ça, c'est Christine.
Alors, les cours d'alphabétisation pour adultes qui se tiennent à la Maison des Jeunes ont été suspendus pendant plusieurs mois, pour certains à un niveau. D'autres niveaux, ils ont continué par Zoom. Et là, on va les reprendre à partir de lundi. Simplement, il y a deux bénévoles qui ont fait faux bond par crainte de Covid, parce qu'elles ne sont pas encore vaccinées, etc. Donc, si l'une d'entre vous, je dis l'une parce que c'est des cours uniquement féminins, souhaite consacrer quelques heures par semaine, ça se passe le mardi après-midi, et le jeudi après-midi, à la Maison des Jeunes, ou éventuellement une fois la Maison des Jeunes, et ensuite par Zoom. Voilà. Donc, avec la personne nous contacte. Il y a mon numéro de téléphone dans le hall avec l'affiche.
Super. Une question importante aussi. Merci beaucoup, Christine. Est-ce qu'il y a des annonces de l'entraide de... Non. Pas particulièrement. L'entraide poursuit son engagement. Toujours en faveur des plus démunis. Donc voilà, si on n'a pas d'autres annonces, et bien, écoutez, on va continuer avec la prière d'intercession. Mais avant cela, non, si, c'est pour ça. Après cela, il y aura l'offrande de l'entraide. Prions. Seigneur, toi qui es notre Dieu et notre Père, en Jésus-Christ, tu es venu habiter notre terre. Dans l'Évangile, nous lisons que tu as guéri le paralysé qui était porté par quatre amis. Nous te prions pour ceux qui sont malades et alités, ceux qui ont peur de l'avenir, dont l'espérance est blessée. Tu as touché le lépreux qui criait son exclusion. Nous te prions pour celles et ceux qui se sentent abandonnés, qui ont le sentiment qu'il n'y a pas de place pour eux dans notre société. Tu es allé à la rencontre de Marthe et Marie dans leur deuil. Nous te prions pour celles et ceux qui ont perdu un être aimé, qui se battent contre le vertige du silence et de l'absence. Tu as parlé à la veuve de Naïm qui avait perdu son fils unique. Nous te prions pour celles et ceux qui sont seuls, qui n'ont personne avec qui partager leur joie, leur peine, leur rire et leurs questions. Tu as été adopté par Joseph. Tu as donné du souci à tes parents. Tu as confié Marie à ton disciple. Nous te prions pour les familles, qu'elles soient des espaces de parole et de vie, des refuges où chacune et chacun se découvre inconditionnellement aimé tel qu'il est. Je t'ai arrêté chez Saché, qui était à la fois riche, petit et collecteur d'impôts. Nous te prions pour celles et ceux qui luttent contre les préjugés, qui savent reconnaître la personne derrière le personnage. Tu as lavé les pieds des disciples rassemblés pour ton dernier repas. Nous te prions pour celles et ceux qui se mettent au service des autres, qui ont le courage de s'agenouiller devant leur prochain. Tu as multiplié les pains pour la foule venue t'écouter. Nous te prions pour celles et ceux qui luttent contre la faim, qui réparent, qui soignent et qui tendent la main. Tu as pardonné aux soldats qui te crucifiaient. Nous te prions pour celles et ceux qui œuvrent pour la réconciliation, qui lancent des passerelles et qui osent le pardon. Tu as dit à tes apôtres que c'est à l'amour qu'ils auront les uns pour les autres, qu'ils seront reconnus comme disciples. Nous te prions pour notre Église, ici, à Niagua-Colombes, et pour toutes celles et ceux qui te suivent ici ou ailleurs, que l'amour soit la motivation de toutes nos actions et nos paroles. Nos paroles que nous mettons maintenant à ton écoute en te disant cette prière qui résume toutes nos prières que ton Fils nous a laissées. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Notre prière est aussi action. C'est donc maintenant le temps de l'offrande de la paroisse. Thank you.
Voilà, pour la famille Truquet, comme d'habitude, une parole d'envoi et de bénédiction. Je vous invite à vous lever. Ce que votre œil a vu, ce que votre oreille a entendu, ce que votre voix a chanté, ce que votre cœur a prié, ne le gardez pas pour vous. Mais allez dire à tous les humains que Dieu est un Dieu qui se laisse trouver. Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il est dans la parole et la bénédiction. Pour nous, il est miséricorde et pardon. Que le Dieu de la grâce et de la miséricorde vous bénisse et vous garde. Que le Dieu de la rencontre et de la générosité vous bénisse et vous garde.
Le Dieu de la musique, de la poésie et des couleurs, des parfums et des saveurs vous bénisse et vous garde.
Il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi.
Nous chanterons deux fois ce dernier livre.
Et à bientôt. Au plaisir de vous revoir.